Chapitre 8e. M. Harding se réjouit de sa réintégration probable. Parmi les dames de Barchester qui ont, jusqu'à ce moment, reconnu M. Slope comme leur directeur spirituel, il ne faut compter ni la veuve de John Bold, ni sa belle-sœur Mary Bold. Quand avait éclaté la grande colère des dignitaires de la cathédrale, nul n'avait montré plus d'irritation contre l'intrus que ces deux dames. Quoi de plus naturel? Qui pouvait être plus fier que la fille du chantre de la perfection musicale avec laquelle se célébraient les offices dans la cathédrale? Qui pouvait ressentir plus vivement un outrage fait aux voix d'élite qui formaient le chœur? Et en pareille matière, Miss Bold et sa belle-sœur ne faisaient qu'un. Ce courroux pourtant avait perdu de sa première violence, et je regrette d'avoir à dire que ces deux dames permirent à M. Slope de présenter lui-même sa justification. Environ 15 jours après le sermon, elles ne furent pas peu surprises d'entendre annoncer et de voir entrer M. Slope. L'ennemi de tout ce qu'elles considéraient comme bon et distingué dans Barchester entrait dans leur salon. Ils n'avaient à lui opposer ni la force de leurs bras, ni la puissance de leurs paroles. La veuve prit vivement son bébé dans le berceau et l'entoura de ses bras, tandis que Mary Bold, debout, était prête à mourir héroïquement pour ce même bébé si les circonstances devaient rendre ce sacrifice nécessaire. Voilà comment fut reçu M. Slope. Quand il se retira, les deux dames lui permirent de leur prendre la main. Il leur fit les adieux souriants d'un visiteur qui était gracieusement accueilli. Oui, il leur serra la main et reçut leur plus courtoise révérence, tandis que le domestique ouvrait pour lui la porte, comme pour le plus vénérable des chanoines. Il avait touché la menotte du bébé et lui avait donné une tendre et chaleureuse bénédiction. Il avait parlé à la veuve des chagrins que le ciel lui avait envoyés bientôt, et Eleanor, versant des larmes silencieuses, n'avait point rejeté sa sympathie. Il avait dit à Mary Bold que son dévouement aurait sa récompense, et Mary Bold avait reçu sans le moindre dégoût les éloges de M. Slope. Et comment avait-il fait ce miracle? Comment cette aversion s'était-elle si vite changée en une sorte de familiarité? Comment avait-il triomphé des sentiments hostiles que les deux dames nourrissaient contre lui, et avait-il aussi facilement fait la paix avec elles? De tout ce qui précède, nos lecteurs auront déjà compris que je n'aime pas M. Slope. Mais je suis bien forcé d'admettre que c'est un homme habile. Il sait placer à propos une parole affectueuse. Il sait mesurer la flatterie à la vanité de ceux qui l'écoutent. Il a l'astuce du serpent et sait en user. Si M. Slope avait pu se rendre agréable aux hommes, comme aux femmes, s'il avait su prendre les manières d'un gentleman, il se serait élevé très haut dans le monde. Il entra en conversation avec Eleanor par l'éloge de son père. Il avait appris avec un vif regret, lui dit-il, qu'il avait blessé les sentiments d'un homme duquel il ne pouvait parler en termes trop respectueux. Il ne voulait point faire allusion à un sujet trop sérieux pour être traité dans un salon, mais il tenait à dire combien il avait été loin de sa pensée de prononcer une parole de dénigrement à l'adresse d'un homme que tout le monde, au moins le monde clérical de Barchester, tenait en si haute estime. Et il continua de la sorte, rétractant une bonne partie de son sermon, exprimant la plus vive admiration pour le talent musical du chantre, unissant dans ses louanges le père, la fille et la belle-sœur, et tout cela, d'une voix grave et douce, qu'il avait depuis longtemps travaillé en vue des oreilles féminines. Bref, il gagna son procès. En se retirant, il exprima l'espoir qu'on l'autoriserait à faire une nouvelle visite. Eleanor ne dit pas oui, mais elle ne dit pas non, et M. Slope en conclut que son droit à une fréquentation ultérieure était tacitement reconnu. Le lendemain, Eleanor parla à son père de cette visite et dit que M. Slope ne lui semblait pas tout à fait aussi noir qu'on le lui avait dépeint. M. Harding ouvrit de grands yeux à cette nouvelle et se borna à répondre qu'il ne pouvait souscrire à l'éloge de M. Slope, mais qu'il n'était pas dans ses habitudes de dire du mal de qui que ce fût. La visite ne lui plut pas, et si peu clairvoyant qu'il fût, il eut la conviction que M. Slope avait eu un autre motif que le désir de plaire à deux femmes par ses propos doucereux. M. Harding, d'ailleurs, en venant voir sa fille, avait un autre objet que celui de parler en bien ou en mal de M. Slope. Il voulait lui apprendre que les fonctions de conservateur de l'hospice allait de nouveau avoir un titulaire et que selon toute probabilité, il retournerait dans son ancienne maison et retrouverait ses 12 vieillards assistés. « Mais, dit-il en souriant, je serais bien déchu de mon ancienne splendeur. Comment cela, papa ? La nouvelle loi règle mes appointements à 450 livres par an. »«
450 livres, dit-elle, au lieu de 800 ?
C'est assez misérable. Mais au moins, papa, vous jouirez de la bonne vieille maison et du jardin. »
« Ma chère, dit-il, les deux valent 3 fois les appointements. »
Et il montrait, en parlant ainsi, une satisfaction plaisante à voir, dans son ton, dans ses gestes, dans la vivacité avec laquelle il traversait de long en large le salon d'Éléanor. « Oui, ils valent 3 fois les appointements. J'aurai la maison et le jardin, et mon revenu sera bien supérieur à mes besoins. »
« Tout au moins, vous n'aurez pas à fournir aux dépenses d'une fille extravagante. »
Et en parlant ainsi, la jeune veuve passa son bras sous celui de son père et le fit asseoir sur le canapé à côté d'elle.
« Non, ma chérie, mais je serai bien seule sans elle. Ne pensons pas à cela maintenant. Je retrouverai ma vieille maison. Je vous avouerai que plus d'une fois j'ai regretté d'avoir à vivre dans un appartement meublé. C'est bon pour un jeune homme, mais à mon âge il faut avoir, je ne sais trop comment dire, une résidence convenable. »
Oh, papa, personne n'a eu semblable pensée. Nul dans Barchester n'a été plus respecté que vous, depuis que vous avez pris cet appartement dans High Street. Non, personne, pas même le doyen dans sa maison, ni l'archidiacre à Plumstead.
L'archidiacre ne serait pas reconnaissant s'il vous entendait, répondit en riant M. Harding.
Quoi qu'il en soit, je serais heureux de retourner à la vieille maison. Depuis que la loi a été votée, je sens que là seulement je trouverai désormais le confortable.
Venez demeurer avec moi en attendant. Allons, soyez un gentil papa.
Merci, ma chérie. Non, ce serait de déménagement. Je reverrai donc mes pauvres vieux.
Hélas, hélas, il en est mort 6 depuis peu. 6 sur 12. Et les autres, je crains bien qu'ils n'y soient guère heureux. Pauvre Bunce, pauvre vieux Bunce.
Bunce était l'un des survivants parmi les 12 vieillards. Il avait alors plus de 90 ans. Il avait toujours été le favori de M. Harding.
« Qu'il va être heureux, le vieux Bunce, » dit Mrs. Bowles en battant doucement des mains.
« Combien ils vont être tous heureux de vous voir de nouveau. Vous pouvez être certain que votre retour rétablira la concorde parmi eux. »
« Mais, » dit-il avec un demi-sourire, « je vais avoir des soucis nouveaux qui m'effrayent à l'avance. » Il y aura 12 vieilles femmes et une surveillante. Comment mènerai-je 12 vieilles femmes et une surveillante?
Ce sera la surveillante qui mènera les femmes. Et qui mènera la surveillante?
Il n'y aura pas à la mener. Ce sera sans doute une personne bien élevée et entendue.
Où habitera la surveillante?
Ce ne sera sans doute pas avec vous, dans la maison du conservateur.
Oh, j'espère bien que non, ma chérie.
Voyez-vous, papa, je vous le dis bien franchement, je ne voudrais pas avoir une surveillante pour belle-mère.
« Non, ma chérie, ce ne sera pas. Autant du moins qu'il dépendra de moi. On doit bâtir une nouvelle maison pour la surveillante et les femmes, mais je ne crois pas qu'on en ait décidé déjà l'emplacement.
La surveillante est-elle nommée?
Pas plus que le conservateur.
Mais pour le choix de celui-ci, il n'y a pas de doute, je suppose. »
M. Harding expliqua à sa fille que, selon lui, il n'y avait point de doute en effet. L'archidiacre avait déclaré que l'évêque et son chapelain, à eux deux, n'avait pas le pouvoir de nommer un autre que lui-même, quelques désirs qu'ils en eussent et quelques doses d'impudence qu'on pût leur attribuer. L'opinion de l'archidiacre était celle-ci. Quoique M. Harding se fût démis de son emploi, et cela sans condition, il l'avait fait dans des circonstances telles que l'évêque était moralement obligé de le réinstaller maintenant que l'affaire de l'hospice avait été réglée à nouveau par une décision du Parlement. Tel était le sentiment de l'archidiacre, et le beau-père ne douta pas un instant que son gendre ne fût dans le vrai. Le docteur Grantly s'était toujours énergiquement opposé à la démission de M. Harding. Il avait fait tous ses efforts pour l'en dissuader, et maintenant encore il jugeait que son beau-père avait manqué alors de courage et de dignité. Et quoique, depuis la nouvelle loi, la situation de conservateur de l'hospice fût loin d'être la même, quoique les appointements diminuaient, l'introduction des femmes et d'autres innovations encore la rendissent très différente de ce qu'elle était autrefois, pourtant l'archidiacre était un homme trop pratique pour désirer que son beau-père, qui n'avait guère à ce moment que 200 livres par an pour vivre, refusa cette position, tout amoindrie qu'elle était. Quant à M. Harding, la diminution des appointements n'avait pas excité en lui un regret même passager. Les 12 vieilles femmes ne lui plaisaient pas beaucoup, mais encore voyait-il là le moyen de rendre un service réel aux pauvres de la ville. La pensée qu'il recevrait sa réintégration comme un don du nouvel évêque, et probablement par l'intermédiaire de M. Slope, lui était un peu désagréable, mais son esprit était en repos depuis que l'archidiacre lui avait assuré que ce ne serait pas là une faveur, mais un dédommagement légitime. Aussi, M. Harding n'éprouva-t-il aucune hésitation à dire à sa fille qu'il pouvait considérer sa rentrée à l'hospice comme une affaire réglée. « Et vous n'aurez pas de demande à faire pour cela, papa ?»«
Certainement non, ma chérie. Sur quoi fonderais-je la demande d'une faveur ? C'est à peine si je connais l'évêque. D'ailleurs, je ne voudrais rien demander qu'il dépendît de M. Slope de m'accorder. »«
Non, » dit-il avec une énergie qui ne lui était pas habituelle. « Je serais assurément bien heureux de retourner à l'hospice, mais je n'y retournerai jamais si ce devait être par le seul bon plaisir de M. Slope. »
Cette petite explosion d'irritation fut désagréable à Eleanor, à cause de ses dispositions du moment à l'égard de M. Slope. Ce n'est pas que le personnage lui plût, mais il avait parlé en fort bons termes de M. Harding, et elle avait résolu de s'appliquer à faire naître entre eux une certaine réciprocité de bons sentiments.
« Papa, dit-elle, vous vous méprenez sur le caractère de M. Slope.
Vraiment, dit-il avec simplicité, je le crois. Je suis convaincu qu'il n'avait pas l'intention de vous manquer de respect quand il a prêché le sermon qui a si fort irrité l'archidiacre et le doyen. Je ne l'ai jamais supposé, mon enfant. Je ne me le suis même pas demandé. Mais je crois qu'il voulait discréditer les pratiques du culte accomplies en conformité avec les canons de l'Église d'Angleterre.
Mais peut-être a-t-il pensé qu'il était de son devoir d'exprimer son opinion personnelle relativement à des choses sur lesquelles vous êtes en désaccord avec lui. Ce n'est pas le devoir d'un jeune prêtre d'attaquer brutalement les convictions religieuses de ses aînés. La courtoisie aurait dû lui fermer la bouche, sinon la charité et la modestie. Mais M. Slow pourrait dire qu'en semblable matière, son divin maître condamne le silence.
Mais non la courtoisie, Eleanor. Croyez-moi, mon enfant, Dieu n'a jamais fait à ses ministres un devoir d'outrager les convictions, même les préjugés de leurs frères. Je regrette d'avoir dit que je ne puis excuser le sermon de M. Slope dans la cathédrale. Mais venez, ma chérie, mettez votre chapeau et allons faire un tour dans ces chers jardins de l'hospice. Je n'ai jamais eu le courage d'en approcher depuis mon départ. Maintenant, je crois que j'oserai y rentrer. Eleanor sonna, fit 1000 recommandations au sujet du bébé, qu'elle allait, à son grand regret, laisser seule 1 ou 2, et elle se rendit avec son père dans le jardin qu'elle n'avait pas revu plus que lui depuis le jour où ils l'avaient quitté ensemble.